12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Place à la critique et place aujourd'hui à deux livres, à deux grands noms de la littérature contemporaine qui vont s'affronter tel un combat de titans et sur le même terrain, celui de l'écriture du désir et de l'amour à l'approche de la mort. D'abord, un inédit posthume du prix Nobel de littérature, c'est « Nous nous verrons en août » de Gabriel Garcia Marquez, puis le dernier Paul Auster intitulé « Baumgartner ».
Vont-ils s'affronter et combattre? En tout cas, ils vont débattre. Céline Duchesnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes productrice à France Culture. On peut vous retrouver le dimanche à 15h dans l'émission Mauvais Genre. Face à vous, Antoine Léris. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Journaliste, auteur et rédacteur en chef du trimestriel Respect. Soyez tous les deux les bienvenus dans les midis de culture.
Et on commence avec « Nous nous verrons en août » de Gabriel Garcia Marquez.
Elle revint dans l'île le vendredi 16 août par le bac de 3h de l'après-midi. Elle portait un jean, une chemise écossaise à carreaux, des chaussures simples à talons plats, sans bas, une ombrelle en satin, son sac à main et pour tout bagage une mallette de plage. Sur le quai, dans la file des taxis, elle alla tout droit vers un vieux modèle rongé par le salpêtre de mer. Le chauffeur l'accueillit avec un salut amical et la conduisit en avançant cas à travers le village indigent avec ses bicoques de torchis, ses toits de palmes de sabal et ses rues de sable brûlant face à une mer en flammes.
Elle, c'est Anna Magdalena Bach. Chaque année, le 16 août, elle prend le ferry pour se rendre sur une île des Caraïbes et fleurir avec des glaïeuls la tombe de sa mère. C'est devenu une habitude, un rituel dans sa vie bien rangée de femme au foyer, mère de deux enfants et épouse épanouie d'un directeur de conservatoire de musique avec lequel une routine quotidienne sexuelle semble bien installée. Une année pourtant, celle de ses 46 ans, la nuit qu'elle passe sur l'île va tout bouleverser. Une nuit de passion avec un homme dont elle ne saura jamais rien, qui va bousculer ses croyances et ses liens, son couple et la relation avec sa mère défunte. Loin de ses complexes et longs romans, cet inédit de Gabriel Garcia Marquez, disparu il y a 10 ans, laisse une drôle d'impression. Alors certes, il y a le plaisir de le retrouver, mais à quoi bon ? Publier un texte que l'auteur, malade et âgé, jugeait mauvais et n'avait qu'ébauché. Qu'en avez-vous pensé, Céline Duchesnet ?
Eh bien, c'est vrai qu'il y a toujours une suspicion, de toute façon, à lire un livre qui n'a pas été publié du vivant de l'auteur. On ne peut pas s'empêcher de se dire, est-ce qu'il n'y a pas là une manne financière pour la maison d'édition, pour les deux fils aussi de Garcia Marquez ? Alors, il s'avère que moi, j'aimais beaucoup cet auteur dans ma tendre jeunesse. J'en ai lu un certain nombre, mais je n'avais pas lu de Garcia Marquez depuis, je pense, une bonne vingtaine d'années. Ce qui fait que j'étais quand même assez contente de le retrouver et j'ai été récompensée au moins sur le premier chapitre parce que j'ai beaucoup aimé ce premier chapitre, la manière dont on rentre dans le roman avec la description de cette femme, avec quelque chose de tout de suite assez tropical qui s'installe, que ce soit dans les sensations, dans l'humidité, dans les corps qui suintent. Il y a aussi cette présence des héros bleus qui sont là.
La lagune,
il y a la traversée avec le hors-bord pour arriver jusqu'à cette île, puisque un certain nombre de... Enfin, les événements, en tout cas la transformation de cette femme se passe à chaque fois dans cette île où elle va une fois par an, à partir du moment où sa mère est morte. Et j'ai aimé le côté, je dirais, un peu truculent. Enfin, j'ai aimé retrouver le ton de Garcia Marquez, même s'il était assez âgé au moment où il a écrit ce livre. On retrouve, je trouve, sa plume, son humour, sa manière de décrire les situations. Il y a souvent aussi des petits comiques de situations qui sont assez jouissifs. Et cette première aventure extra-conjugale de cette femme est somme toute, je trouve, assez cocasse. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut avancer dans le récit, mais je ne sais pas, je vous regarde. Est-ce qu'on peut parler de Dracula? Oui, parce qu'elle lit
oui,
en même temps
Dracula. Oui, c'est le livre qu'elle lit.
De Bram Stoker, et puis...
Avez peur d'Antoine Léris, je comprends.
Non, parce que je ne voudrais...
Il pointe dès qu'on se passe une fin.
Je ne voudrais pas divulgâcher, mais c'est vrai que tout ceci arrive très vite, et en fait, elle se jette sur cet homme qui est plutôt consentant, hein, il faut le dire, mais elle se donne du plaisir sans vraiment penser au plaisir de cet homme. forme, ce que je trouvais assez intéressant comme notion. Et tout
et
ça.
Sans que cette scène soit très sensuelle non plus.
Non plus, puisque je
ah
sais
bon
plus. Non, elle le monte jusqu'à la racine. Enfin, il y a des termes un peu de ce genre-là. Et tout ça en lisant Dracula de Bram Stoker, livre que j'adore. Et j'ai trouvé ça intéressant, ce contraste de se dire qu'elle était en pleine littérature fantastique, avec la présence des vampires qui arrivent, et elle se jette goulûment sur cet homme. Alors, j'étais donc là, avec face à quelque chose plein de promesses, et j'étais après, je dois dire, tout de même assez déçue, parce que toutes ces pistes qui étaient lancées dès le départ, et dont je me frottais les mains tout en tournant les pages, je ne les ai pas spécialement retrouvées, même si, je dois dire, il y a quand même un plaisir à retrouver un auteur qu'on a beaucoup aimé et d'avoir une sorte de petit bonbon sucré, je dirais presque un peu la cerise sur le gâteau, quelque chose en plus auquel on ne s'attendait pas, qui arrive tout à coup et qui est déposé dans vos mains avec un joli titre. Hein. Nous nous verrons en août de la part de quelqu'un qui est mort. Je trouve que c'est assez joli, tout simplement.
Alors,
voilà en préambule.
Pas étonnant que ce premier chapitre vous ait plu, Céline Duchesnel, puisque c'était le seul en fait qui a été validé par Gabriel García Márquez. Il en avait fait la lecture publique en 1999, donc il y a assez longtemps. Il est mort 15 ans après. Pendant tout ce temps-là, il a travaillé sur ce texte. Il n'en a jamais été véritablement content. Il y a 6 chapitres au final qui ont donc été constitués par des notes, par le fichier, l'ultime fichier que Gabriel García Márquez avait laissé à ses enfants et qui était intitulé « Grand hockey final ». Bon, apparemment, ce n'était pas totalement finalisé. Vous, est-ce que ça vous a plu ou juste aussi une frustration comme Céline sur les autres chapitres?
Moi, j'ai eu le même plaisir d'abord que Céline et c'est ce plaisir qui lie les deux livres dont on va parler aujourd'hui, qui est de retrouver Paul Auster et de retrouver Gabriel García Márquez. Il y a quelque chose, quand on a vécu des émotions immenses avec un auteur ou une autrice, le moment où on ouvre la première page d'un nouveau livre de cet auteur ou de cette autrice, c'est toujours un moment particulier. Il y a quelque chose de très intime qui s'est lié. Et moi, je l'ai abordé sans questionner les intentions de l'éditeur ni des enfants de Gabriel García Márquez, comme quelqu'un qui aurait trouvé par hasard ce livre en librairie et aurait ouvert la première page. Et donc, j'ai commencé la lecture et je pense comme la plupart de ceux qui vont voir ce livre, je me suis beaucoup ennuyé. Champ lexical, moi c'est drôle, j'ai pas vu la lagune bleue mais j'ai vu le délabrement. On a le village indigent, l'hôtel le plus déchu de tous. On l'entendait, le taxi rongé par la salpêtre de mer. Et on commence à envisager le fait déjà qu'il l'a écrit dans un moment où lui-même commençait à souffrir. Et je pense que justement ce sous-texte nous suit tout au long du roman. On continue, j'avoue que je me suis encore ennuyé. Alors c'est très pictural dans l'écriture, c'est très García Márquez, mais ce qui est génial dans la peinture, c'est le mouvement, et là, c'est très statique, d'où l'ennui, et puis on attend qu'il se passe quelque chose, on va jusqu'à la fin, je ne vais rien divulguer, mais on va jusqu'à
alors,
la fin du roman.
Alors là, jamais, Antoine, je ne vous louperai pas.
Et il ne se passe toujours rien, et après, il y a une postface. Et là, pour moi, il s'est passé vraiment quelque chose.
Bah,
c'est-à-dire, il y a une postface,
voilà,
ce sont trois pages des enfants de Gabriel García Márquez qui expliquent pourquoi même au-delà de ce que lui avait décidé pour ce texte, qu'il ne soit pas publié, ils le disent honnêtement. Il avait dit « débarrassez-vous de ce texte » et pour autant, ils ont décidé de le publier. Et là, moi, je trouve que d'abord, ce sont les trois pages les plus émouvantes du livre. Et ensuite, du coup, je suis reparti dans la lecture du livre à la lumière de ce que eux me disaient.
Alors, qu'est-ce que ça a changé?
Eh ben, en fait, ça a tout changé. Parce que là, j'ai retrouvé cet auteur qui était habitué des démonstrations de force, 100 ans de solitude. Vous l'avez dit, vous l'avez relu en août dernier, je crois. C'est un livre impressionnant. Les histoires s'entremêlent. Il y a quelque chose de très puissant.
C'est très complet.
Et là, c'est très amoindri. C'est très réduit. C'est minuscule. Et j'ai trouvé que cet auteur qui avait fait démonstration de tant de force littéraire, le voir dans ce moment de faiblesse, eh ben en fait, j'ai trouvé ça très beau et très émouvant. Il y a une chanson de Leonard Cohen qui dit « Il y a une faille dans chaque chose et c'est par là que la lumière passe ». Ben moi, c'est par là que la lumière est passée. Et il y a une phrase que j'ai retrouvée page 14 en reprenant le texte qui est « Du plus haut point du cimetière ». Donc le cimetière où est García Márquez aujourd'hui, elle découvrit la splendeur du monde. C'était l'unique endroit solitaire où elle ne pouvait se sentir seule. Et là, en cette phrase, il résume ce que c'est d'écrire, ce que c'est de la littérature. Et avec ça, quelque part, il s'offre une éternité littéraire, y compris au travers de ce roman-là.
Mais est-ce que c'est pas dommage d'avoir besoin de tout cet appareillage extérieur pour aimer ou pas aimer un texte? C'est-à-dire que moi, j'ai été aussi parasitée par le fait que ces deux fils ont désobéi à la dernière volonté de leur père, qui était de ne pas le publier. Ce qui fait qu'en fait, moi, j'ai eu l'impression de lire une trahison. Et à la fin, c'est vrai que cette postface est très, très, très émouvante. Mais en fait, on devrait s'en fiche de ça. Enfin, c'est pas important, normalement, on devrait être juste content de retrouver Gabriel García Márquez. Or, ce texte est quand même ennuyeux. Céline Duchesneau.
Je serais pas aussi catégorique que vous, ennuyeux. Non, il y a quelque chose de l'ordre de la répétition dans chaque chapitre, où puisque chaque chapitre est un peu constitué de la même manière, c'est une année de plus que cette fameuse narratrice va. Donc oui, ça se passe tous les ans et tous les ans. Elle passe un ou deux jours dans cette île pour aller...
Il y a un homme, une nuit, un livre.
Oui, en sachant que parfois, il n'y a pas d'homme. Donc il y a des petites surprises. Parce que parfois, elle tente une aventure qui ne marche pas. Parfois, elle en tente une autre. On se dit, ça y est, il va y avoir encore une exaltation des corps. Et il s'avère qu'elle découvre après coup que l'homme en question était un serial killer. Et d'ailleurs, elle éprouve, enfin, les termes qu'elle éprouve au moment donc de cet acte sexuel, on a l'impression qu'elle est déchirée de l'intérieur. On n'est pas du tout dans l'exaltation des sentiments et dans la beauté des corps. Donc, c'est une sorte de variation où, avec les mêmes situations, une femme qui se retrouve seule dans cette île, va-t-elle rencontrer un homme ou pas? Elle va se retrouver dans un hôtel différent à chaque fois. Donc moi, je me suis finalement plus attachée à toutes ces petites nuances. Tiens, cette année, il y a toujours des danseurs d'ailleurs dans cet hôtel. Sur quoi ils dansent? Est-ce que c'est un boléro triste? Est-ce que c'est le clair de lune? Et à chaque homme rencontré aussi, il y a toujours une lecture. Donc j'ai essayé en fait de trouver des liens entre les musiques, les lectures. Les hommes, mon cerveau a beaucoup travaillé pendant cette lecture et je ne suis pas toujours arrivée à comprendre le lien entre tous ces éléments. Et je dois dire que moi, vraiment, ma manière de lire, c'est que je ne lis jamais la quatrième de couverture parce que je ne veux pas, justement, apprendre trop de choses. Et j'aime ouvrir un livre en commençant par la première phrase et en me disant « Mais où est-ce que je vais partir? Dans quelle direction je vais aller ?» Sauf que là, on était quand même obligé de savoir que Garcia Marquez était mort. Ouais. On le savait. Donc, c'était un postulat de départ et on savait que c'était l'anniversaire de sa mort, 10 ans plus tard,
voilà.
Qu'un livre sortait. Donc, la suspicion, et je défends ma cause, un petit peu légitime.
C'est un des rares livre qu'il faut commencer par la fin. Il y avait, quand j'étais adolescent, des livres où on pouvait choisir la fin. Alors on pouvait aller retourner selon la direction qu'on choisissait pour l'histoire. Exactement. Ben là, c'est un livre qu'il faut commencer par la fin. Je pense qu'il faut commencer par cette postface pour comprendre et réussir à lire le livre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un livre de quelqu'un qui écrit alors qu'il est impossible pour lui d'écrire. Il le dit, enfin, dans la postface, les enfants rapportent. Mais non, les enfants rapportent cette phrase-là qu'avait dit Gabo. La mémoire est à la fois ma matière première et mon instrument de travail. Sans elle, il n'y a plus rien. Ce qui veut dire qu'on a quelqu'un, un écrivain, un immense écrivain, qui perd la mémoire, qui est son outil pour l'écriture et qui cherche quand même à aller au-delà. Moi, je dis pas que c'est un grand roman de Gabriel Garcia Marquez. Je pense qu'il sera oublié. En revanche, pour ceux qui ont aimé les grands romans de Gabriel Garcia Marquez, le voir dans cette position-là, dans cette situation-là, et je trouve un moment, on parlait de cette intimité avec les grands auteurs. On a cette intimité avec eux quand ils sont le plus disert, les plus talentueux. Ben là, on a aussi un moment d'intimité. Intimité qui est un moment de faiblesse. Et je trouve que c'est vraiment d'ailleurs ce qui réunit ces deux livres-là.
Ouais.
Moi, j'ai ressenti la même chose avec Paul Auster. Dans un moment de faiblesse, et ben, ces grands génies ont aussi quelque chose de magnifique et quelque chose à dire.
Et dans ces deux livres, d'ailleurs, se pose aussi la question de la sexualité, du désir, avec le temps qui passe, avec la vieillesse, avec le couple qu'on a eu ou qu'on a encore. Alors, l'idée quand même de Gabriel Garcia Marquez, c'était de faire un grand texte. Ce texte-là devait être un des 5 récits qui tournaient autour de cette héroïne, Anna Magdalena Bach, et de parler autour d'elle d'histoires d'amour de personnes âgées. Alors c'est vrai qu'il y a ça qui est un petit peu en filigrane, mais là aussi on sent en fait que c'est un petit peu frémissant, c'est des ébauches, Céline.
Oui, surtout qu'elle a 47 ans, enfin, j'appelle pas ça.
On la suit quand même sur 6 ans, c'est-à-dire qu'on sent, elle se regarde vieillir.
Oui, mais par rapport à certains personnages qu'on retrouve dans les livres de Garcia Marquez, elle ne fait pas partie des très très vieux, parce que lui a vraiment déjà mis en scène un certain nombre de très très vieilles personnes. Oui, il y a plein de choses qui sont énigmatiques de toute façon dans ce livre. Là aussi, on ne parlera pas de la fin, je ne parle pas de la postface, mais de la vraie fin du livre. Le rapport qu'elle a avec sa mère, le secret que sa mère a emporté dans sa tombe qui pourrait légitimer... Quel lien a-t-elle au secret de sa mère? Ce sont des histoires d'adultère. Bon.
J'ai l'impression que au-delà de la sexualité, c'est plutôt une histoire d'écriture. Cette île où on revient chaque année pour produire quelque chose de nouveau, pour se remémorer. En fait, on va y chercher toujours la même chose. ces souvenirs qui sont enterrés là, dans cet endroit-là qu'est la littérature, et on y revient toujours avec autre chose que ce qu'on était venu chercher.
Oui,
et en ça, je trouve ce texte, pour le coup, assez joli, mais il parle effectivement plus d'écriture que de sexualité à l'orée de la cinquantaine.
Il y a quand même cette histoire de la déliquescence, que ce soit en effet l'île, en effet, qui vraiment est une île de pauvreté, et la déliquescence des sentiments aussi, parce qu'il y a quand même, on nous décrit un couple au départ qui a une sexualité très joyeuse, très débridée, avec des thématiques qui a l'air super, avec des thématiques différentes en fonction des jours, des années, des rendez-vous. Et puis, parce qu'elle a trompé une fois son mari, tout à coup, tout devient extrêmement poussif et le couple s'écroule.
Il y a beaucoup de trébuchements dans ce livre. Il y a beaucoup d'hésitations, il y a beaucoup de maladresses. En fait, il y a beaucoup de... Mais moi, je trouve que ces moments montrent quelque chose de García Márquez qu'on n'avait encore jamais vu.
Traduit de l'espagnol par Gabriel Yaculi aux éditions Grasset, nous nous verrons en août de Gabriel García Márquez.
12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoy, Nicolas Herbeau.
Et nous parlons à présent de Baumgartner de Paul Auster.
Baumgartner est assis à son bureau, dans la pièce du premier étage qu'il désigne parfois comme son bureau, son cogitorium ou son trou. Stylo en main, il est engagé à mi-chemin dans une phrase du troisième chapitre de sa monographie sur les pseudonymes de Kierkegaard, quand il lui apparaît que le livre qu'il a besoin de citer se trouve en bas, au salon, où il l'a laissé avant de monter se coucher la veille. En descendant l'escalier pour le récupérer, il lui revient aussi qu'il a promis à sa sœur de l'appeler ce matin à 10h, et comme il est presque 10h, il décide d'aller dans la cuisine passer le coup de fil avant de récupérer le livre au salon. En entrant dans la cuisine, toutefois, il s'arrête net, sous l'effet d'une odeur âcre et pénétrante.
Et de là, tout s'enchaîne. Une casserole cramée, une main brûlée, la livreuse qui sonne, le préposé au compteur électrique qui surgit, une ampoule cassée et la chute dans l'escalier. Baumgartner, professeur de philosophie à Princeton, veuve depuis 10 ans, allongé sur le sol humide du sous-sol, s'enfonce dans les méandres de sa mémoire. D'abord, le deuil impossible de sa femme tant adorée, son père, révolutionnaire raté qui aura passé sa vie à vendre des vêtements, sa mère orpheline, sa sœur aigrie. Pour son dernier roman, et peut-être ultime, Paul Auster a appris à la fin de la rédaction qu'il était atteint d'un cancer. Les retrouvailles sont pour le coup assurées. Hasard, récit enchâssé, salto narratif avec réception parfaite, indice autobiographique, mélancolie mêlée d'humour, avec ce qu'il faut de références philosophiques comme on les aime. Qu'en avez-vous pensé, Antoine Léris ?
Alors moi, j'ai pas rencontré Paul Auster au travers de ses livres, parce que je pense qu'il faut commencer par là, justement, puisqu'on parle d'un rapport très intime avec un auteur. Je l'ai rencontré avec ses films, et notamment Smoke et Brooklyn Boogie en 95. J'étais adolescent. Ces films m'ont marqué à un point. Je peux vous raconter de tête la dernière scène de Smoke.
Vous n'avez pas dévoilé une fin quand même.
Avec la voix de Tom Waits qui arrive. Enfin, c'était une merveille. Et en fait, j'ai compris que plus tard, en lisant ses livres, que le film racontait en fait la fin d'une époque qu'il racontait magnifiquement dans sa trilogie new-yorkaise, qui est absolument passionnante, qui est vraiment un chef-d'œuvre sur ces années-là, d'un New York entre deux, entre les crises des années 70 et entre la réinvention des années qui suivront, puisque Smoke racontait la transformation d'un vieux magasin de cigares avec ses habitués en magasin bio pour l'alimentation des hipsters new-yorkais. Donc j'étais très heureux de retrouver, et dès les premières pages, cet écrivain de l'anecdote. Parce que Smoke et Brooklyn Boogie sont des enseignements d'histoire et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé comme plaisir dans ce livre-là. Et il y en a des vraiment géniales. Page 111, il y a l'anecdote de la braguette ouverte. Qui signifie qu'on a passé un certain âge, qui est une sorte de club, c'est-à-dire passé 70 ans, les hommes qui se maîtrisent moins sortent des toilettes la braguette ouverte. Et lui, Baumgartner, s'aperçoit que ça lui arrive 3 ou 4 fois par semaine. Il se demande s'il n'est pas en train de faire partie de ce club des hommes vieux. À braguette ouverte. Voilà, il y a des trucs, il y a vraiment un talent qui est vraiment toujours là et toujours vif, toujours vivant. Ensuite, le génie de Paul Auster, c'était que toutes ces petites anecdotes, quand on les mettait bout à bout, dressaient un tableau et racontaient une histoire immense. Là, moi, c'est ce qui m'a manqué dans ce livre-là. C'est-à-dire que, oui, j'ai suivi les anecdotes les unes après les autres, comme des petits cailloux. Je l'ai suivi sur ce chemin-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'enchaînements qui sont un petit peu faciles. C'est-à-dire, il se demande où sa pensée va l'emmener ensuite. Sa pensée l'emmène ici. Voilà, il y a un petit peu des enchaînements qu'on... Et je l'ai suivi, mais sans y voir véritablement un monde se créer comme ça pouvait être le cas dans la trilogie new-yorkaise ou dans ses films.
Céline Duchesnay.
Alors, je vais dire la même chose que ce que j'ai dit pour Garcia Marquez. Moi aussi, j'étais très contente de le retrouver parce que ça correspondait aussi à des plaisirs de lecture. Peut-être que c'est à la même période où j'ai lu tous ces grands auteurs. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas lu de Paul Auster, et moi j'ai eu le sentiment là d'avoir un vrai rendez-vous, d'avoir un vrai plaisir de lecture. Je l'ai lu deux fois, et la deuxième fois je l'ai tout autant aimé que la première fois, en m'attachant peut-être un peu plus aux anecdotes, aux détails, à la manière dont il était capable de passer d'une histoire à une autre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme si on rentrait dans la mémoire de ce personnage principal. Il parle même, je crois, du palais de la mémoire. Alors, en effet, je suis d'accord avec Antoine, il y a des petites phrases parfois qui sont peut-être un petit peu évidentes. Tout à coup, il s'arrête, il se met à penser, il pense à son enfance. Mais ce qui est très intéressant dans la construction, c'est, comme nous tous, comment, à un moment donné, alors qu'on est en train d'accomplir une tâche... pof, on se déconnecte de notre tâche, on part dans le passé. Une anecdote qui paraît a priori insignifiante, on s'en souvient. Pourquoi cette anecdote-là, on s'en souvient alors que c'est pas un moment central de notre vie? Alors, par exemple, pour notre narrateur, il se souvient d'un petit garçon qui était dans le métro avec son père qui était en face de lui, et tout à coup, le père donne une gifle monumentale au petit garçon. Et c'est une scène qui va rester absolument gravée dans la mémoire du narrateur, et qui va lui permettre après, il s'interroge, il se dit mais pourquoi est-ce que je me souviens de cette scène, en dehors du fait que c'est évidemment violent. Il la rattache aussi à une autre scène d'une petite fille, noire qu'il avait vue dans le train avec sa mère, et à partir de ces deux scènes-là, il se dit, en fait oui, si je m'en souviens, c'est parce que ça me rappelle moi, ma relation à mon père. Et là, à partir de ces deux anecdotes, on part dans un récit où on va un peu plus découvrir qui était le père du narrateur, qui était la mère du narrateur. Et ce que j'ai trouvé assez joli, c'est finalement ce côté un peu poupée russe où on est face à un homme qui vit un deuil terrible. Sa femme est morte depuis 10 ans, mais à quoi ressemble sa vie depuis que sa femme est morte? On a l'impression qu'il s'occupe. Moi j'ai aussi été très touchée par tout ce qui touche au deuil, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il décide de se débarrasser de toutes les affaires de sa femme dans la maison, mais il ne touche pas à la pièce où elle avait l'habitude d'écrire, puisque sa femme était traductrice, écrivait aussi. Il décide et il a une métaphore qui est très très jolie. Il parle des membres fantômes. Vous savez, quand vous perdez, quand vous êtes amputé par exemple d'un membre, vous pouvez continuer à avoir la sensation du membre qui a disparu.
Et pour... Il écrit même un essai là-dessus.
Mmh. Oui. Et il dit que ça correspond à ce que lui, il ressent. C'est comme s'il il était amputé d'une partie de lui-même. Donc, à partir de ce constat-là, comment est-ce qu'il va réorienter sa vie? Donc je parlais de poupée russe, c'est parce que à la fois on a des souvenirs du passé, des souvenirs de son enfance, mais on a aussi beaucoup de souvenirs à travers des écrits qu'elle a pu écrire, où on retrouve la rencontre entre elle et lui. Il va aussi décider de publier ses poèmes, donc on va avoir ses poèmes qui vont apparaître dans le livre. Et j'ai beaucoup aimé cet enchâssement, cette manière de passer d'un univers à un autre, et puis de créer après une somme plus globale. Et je me suis pas senti lésée, moi, contrairement à Antoine.
En fait, justement, moi, j'ai pas vu des poupées russes, mais des collages, plutôt de choses diverses, comme si il avait fait un premier récit, puis qu'il avait retrouvé dans ses tiroirs quelques textes, notamment sur son enfance, sur ce voyage qu'il fait jusqu'en Ukraine, qu'il aurait collé là, d'autres textes.
Oui, ça, c'est vrai. Paul Auster a fait un voyage en Ukraine, et il a effectivement inséré ce texte-là, voilà. Et qu'on lit.
Et donc, en fait, on a plus le sentiment de collage. Alors, ensuite, c'est assez tout puisque la mémoire fonctionne comme ça, par collage. En fait, c'est rarement justement un récit linéaire, mais plutôt des images qui reviennent. Voilà, moi, ce qui m'a manqué, c'est justement la dimension plus immense que pouvaient avoir ces autres textes, dans le sens où, de l'anecdotique, on construisait un monde, et là, le monde me semble vraiment très, très faible et très léger. J'ai plutôt l'impression de quelque chose de très linéaire. Ensuite, moi, il y a des choses que je trouve très belles. Il y a, par exemple, le fait que Paul Auster ne marque pas par un tiret les dialogues. Ce qui fait que soit les dialogues n'en sont pas, soit tout le livre est un dialogue entre lui et nous.
Il y a une sorte de trouble, parce que les premières lignes qu'on a entendues au départ, en fait, on a l'impression qu'on va assister au récit d'un homme qui perd la mémoire. Et en fait, on se rend compte qu'on est avec un homme qui va retrouver la mémoire, et c'est pas du tout un livre morbide vers le passé, mais au contraire, quelqu'un qui se dit « qu'est-ce que je peux encore vivre ?» Puisque je ne suis pas encore dans le club des braguettes ouvertes, qu'est-ce qui me reste encore à vivre en termes d'amour, en termes d'écriture? Mais c'est vrai qu'il y a un doute.
Et ça, je trouve ça très fort.
On ne sait pas si c'est lui qui se dit ça dans sa tête ou s'il le vit vraiment.
Exactement. Et ça, je trouve ça très beau parce que, en fait, ce livre qui se déroule sur plusieurs années pourrait être, en fait, simplement juste une après-midi de cet homme, une fois qu'il s'est brûlé la main et qu'il se remémore tout ça a posteriori. Et ça, j'ai trouvé ça, pour le coup, assez fascinant et correspondant bien, justement, avec quelque chose de plus, une littérature plus humble, telle qu'elle est dans ce livre-là, comparé à d'autres livres de Paul Auster.
Et Céline Duchesne.
Oui, alors moi, là où je ne rejoins pas Antoine, c'est que moi, j'ai trouvé qu'il y avait une valeur très universelle dans ce livre et que je l'ai pris aussi pour moi, et je trouve qu'un livre est réussi quand tout à coup, ça permet aussi de s'interroger soi-même, de commencer à réfléchir à un certain nombre de choses. Toute cette réflexion sur le vieillissement, sur ce qu'il reste à accomplir, sur comment est-ce qu'on est nourri du passé, comment est-ce qu'on vit avec les autres, la place de l'amour, comment est-ce que l'amour même peut évoluer, est-ce qu'on peut aimer une deuxième fois. Ce sont des thématiques qui m'ont vraiment personnellement enrichi. Je remercie Paul Auster de ce livre aussi pour cette raison-là. J'espère qu'il y en aura d'autres.
Ben voilà, on ne sait pas non plus, parce qu'il y a aussi le fait que lui-même donne, à travers sa femme, Cyrudzat, qui est aussi écrivaine, professeure, et qui dit qu'en fait, on ne sait pas s'il pourra encore écrire. Donc il y a quand même aussi ce trouble-là, un petit peu comme Gabriel Garcia Marquez. C'est-à-dire qu'on le lit aussi, on peut se demander si on ne lit pas un livre testament, là aussi.
Moi, je l'ai lu un petit peu comme ça, parce que pour le coup, c'est lui qui a décidé de publier le livre, contrairement donc au premier dont on a parlé. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que je lisais le livre de quelqu'un qui savait que ses jours étaient comptés, et qui avait donc, dans ces moments-là, je pense qu'on a quand même une relation très particulière à la vie et bien sûr à la mort, et c'est ce que j'ai vraiment ressenti moi dans ce livre, une sorte de goût, d'appétit pour la vie, pour les émotions, les sensations, l'amitié, les gestes simples, et ça c'est quelque chose qui m'a touchée.
Baumgartner de Paul Auster, traduit de l'anglais par Anne-Laure Tissu, c'est aux éditions Actes Sud. Merci à tous les deux, Céline Duchesne. On vous écoute peut-être ce dimanche dans Mauvais Genre. Non, donc pas ce dimanche, un autre dimanche, en tout cas c'est à 15h. Antoine Léris, on vous lit dans la revue Respect. Toutes les références et tous les débats sont à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.